Au coup de sifflet du départ d'une épreuve de course, certains font un faux départ et d'autres démarrent en trombe. Mais on les observe de près pour voir s'ils vont tenir la distance, parce qu'au final, ce qui compte vraiment, c'est l'arrivée. Dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, Jésus-Christ adresse une lettre à l'église de Philadelphie et il est remarquable qu'elle a non seulement bien commencé la course chrétienne, mais malgré les difficultés que ses membres rencontrent, cette assemblée persévère dans la foi coûte que coûte. Jésus lui dit alors « Je viens soudainement, retiens fermement ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. » Verset 11. Aux églises précédentes, quand le Seigneur dit qu'il va venir, c'est une menace, une mise en garde contre un jugement imminent qu'il a l'intention de leur administrer parce que les chrétiens vivent dans le péché. Par contre, ici, il vient pour venir en aide et récompenser ses fidèles en but aux païens qui les haïssent. Dans chaque cas, la raison de la venue du Seigneur est en rapport avec le comportement des croyants auquel il s'adresse. Son retour peut donc être pour punir, pour délivrer, pour enlever son église ou pour détruire tous ses adversaires à la fin des 7 années de tribulation. Aujourd'hui, nous attendons que le Seigneur vienne dans les airs pour chercher et prendre avec lui tous les siens. En vue de son retour imminent, le croyant doit garder ce qu'il a. C'est-à-dire, rester fidèle à son Seigneur. C'est aussi ce que Jésus demande à chacun des membres de l'Église de Philadelphie. Dieu donne aux véritables croyants la foi, le courage et la fermeté de persévérer jusqu'à la fin. L'apôtre Paul écrit « Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils ». Il a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Mais il vous faut, bien sûr, demeurer dans la foi. Elle est le fondement sur lequel vous avez été établi. Tenez-vous-y fermement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Fin de citation. Ceux qui abandonnent la foi en cours de route, quelle qu'en soit la raison, révèle qu'ils n'ont peut-être jamais compris en quoi consiste la bonne nouvelle de Jésus-Christ et ne l'ont pas accepté comme leur sauveur. Le pire, c'est un soi-disant chrétien qui non seulement retourne sa veste, mais en plus se dresse de toute sa hauteur contre Jésus et les croyants. L'apôtre Jean écrit « Ses adversaires du Christ sont sortis de chez nous ». Mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Par contre, le Seigneur réserve une couronne aux membres de l'Église de Philadelphie, ainsi qu'à tous ses fidèles. Le mot grec pour couronne ne désigne pas la couronne de la royauté qui est « diadema » en grec, d'où nous avons « diadème », mais la couronne décorée qu'on remettait au vainqueur d'une épreuve sportive. Dans le Nouveau Testament, quand il est question de couronne, c'est toujours celle-ci dont il est question. Il en existe plusieurs sortes, et elles font partie des récompenses que recevront certains croyants pour leur consécration dans le service du Seigneur. Dans la lettre à l'église de Smyrne, Jésus a déjà mentionné une couronne, littéralement « la couronne qui est la vie ». Ici, il dit simplement « ta couronne ». Il est intéressant de remarquer que cette récompense particulière est promise aux membres des 2 églises auxquelles Jésus ne fait aucun reproche. Je continue la lettre à l'église de Philadelphie. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Verset 12. Jésus termine cette lettre en promettant 5 bénédictions au vainqueur, c'est-à-dire à celui qui persévérera jusqu'à la fin. Tout d'abord, il fera de lui un pilier, ce qui symbolise la stabilité, la puissance et la permanence. Ensuite, il sera pour l'éternité dans le temple de Dieu, c'est-à-dire en toute sécurité dans la présence de Jésus-Christ, qui ne quittera jamais, parce qu'il aura avec lui une relation en esprit qui sera parfaite. Il pourra aller où bon lui semble dans les cieux, mais sera toujours en communion avec son Sauveur. En troisième lieu, Jésus promet au vainqueur de graver sur lui le nom de Dieu, un peu comme les bovins étaient marqués au fer avec les initiales de leur propriétaire. Aujourd'hui, ils portent une étiquette poinçonnée à l'oreille, mais elle joue le même rôle que la marque au fer. Jésus dit par là que le croyant appartient à Dieu. Le croyant vainqueur portera sur lui le nom de Dieu, mais également, et c'est la quatrième promesse, le nom de la ville de son Dieu, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem. Ce nom sera comme un passeport garantissant que le croyant est bien citoyen de la capitale du royaume des cieux. A priori, cette façon de s'exprimer est symbolique, car il n'y aura ni garde-frontière, ni policier au ciel, puisque le mal n'existera plus. Mais, d'un autre côté, les promesses de Jésus pourraient aussi avoir un aspect littéral, car le croyant, citoyen de la Nouvelle Jérusalem, aura des responsabilités à remplir sur terre. Or, peut-être qu'il devra parfois montrer patte blanche, parce que même si dans le royaume terrestre de Jésus-Christ, le mal sera bien moins visible qu'il ne l'est aujourd'hui en ce monde, il sera néanmoins toujours présent. Cinquièmement, Jésus promet aussi de graver son nom nouveau sur les vainqueurs. C'est un peu comme la signature au bas d'un laissez-passer. Le nom représente toute la personne, ce qu'elle est. Non seulement le croyant appartient à Dieu, mais également à Jésus-Christ sous son nouveau nom, qui est probablement un titre divin comme « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Dans sa première épître, Jean écrit que dans les cieux, les croyants verront Jésus tel qu'il est et seront semblables à lui. Parce que les membres de l'église de Philadelphie se sont identifiés au Seigneur par la foi en lui faisant confiance, lui-même s'identifiera à eux. Je finis cette lettre à l'église de Philadelphie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 13. C'est le refrain habituel, l'exhortation finale qui termine chaque lettre. Tous les croyants doivent prêter attention à toutes les vérités enseignées dans les 7 lettres parce que ces types d'églises ont toujours existé au cours de l'histoire. Après avoir délivré une copie du livre de l'Apocalypse à l'église de Philadelphie, le coursier a repris la route et est parti en direction du sud-est. Après avoir parcouru 65 kilomètres, il arrive à Laodicée, une ville dont le nom signifie « justice du peuple » et qui se trouve aussi à 160 kilomètres à l'est d'Éphèse. Le coursier se rend à l'église et y délivre le 7e et dernier exemplaire de l'Apocalypse. Il a fini son travail, la boucle est bouclée. Laodicée est à 16 kilomètres à l'ouest de Colosse et à 10 kilomètres au sud de Hierapolis. Ces 3 villes se trouvent dans la belle vallée du Lycus, une région parfaite pour l'agriculture, mais où le sol tremble trop souvent. Située sur un plateau de quelques centaines de mètres de hauteur, d'un point de vue militaire, Laodicée est pratiquement imprenable. Cependant, elle est très vulnérable parce que son eau provient de sources distantes de plusieurs kilomètres et acheminée par des aqueducs souterrains qui pouvaient facilement être bloqués. Laodicée fut fondée dans la première moitié du 3e siècle avant Jésus-Christ par le roi Antiochos II, Séleucide, qui lui donna le nom de sa première femme avant de divorcer. Les premiers habitants viennent de Syrie, mais beaucoup de Juifs s'y établissent aussi. À un certain moment, la ville comptait 7500 hommes juifs, et on le sait, d'après le montant de l'impôt du temple qu'ils envoyaient à Jérusalem. Après être tombé dans le giron de Rome, Laodicée est sous la protection de ses légions, ce qui lui vaut une grande prospérité économique. Il faut dire qu'elle est bien placée à la jonction de deux voies importantes, la route est-ouest qui va de l'Orient à Éphèse en passant par la Phrygie et la route nord-sud qui va de Pergame à la mer Méditerranée. Cette situation fait de Laodicée une ville commerciale de premier plan. On sait par ailleurs que Cicéron, homme d'État et philosophe latin du 1er siècle, venait traiter ses affaires dans une banque de Laodicée. En fait, la ville est tellement riche qu'elle finance sa propre reconstruction après un tremblement de terre survenu en l'an 60. Et le Talmud, le livre de traditions orales juives, parle avec mépris de la vie aisée et lascive que mènent les Juifs de Laodicée. À la fin du 1er siècle, Laodicée est réputée pour la laine noire douce qu'on y produit et dont on tisse des vêtements et des tapis très prisés. La ville est également un centre médical important. Au temple du dieu phrygien Menkaou, situé à proximité, se trouve une école de médecine qui devient célèbre pour avoir développé la poudre phrygienne, une crème pour oindre les yeux qui est exportée dans tout le monde gréco-romain. La lettre à cette église fait allusion à ces trois pôles économiques, la finance, l'industrie de la laine et la crème phrygienne. Malgré sa prospérité, la ville sera finalement abandonnée à cause des tremblements de terre à répétition qui l'affligent. Aujourd'hui, on y voit encore les ruines de deux théâtres romains et de trois églises chrétiennes. Comme pour cinq des six églises précédentes, le Nouveau Testament n'indique pas qui est à l'origine de l'église de Laodicée, mais comme les précédentes, elle est probablement le fruit d'un essaimage de l'église d'Éphèse pendant le ministère de l'apôtre Paul. Quelques années plus tard, quand il écrit aux Colossiens, Épaphras, son compagnon d'œuvre, se trouve à Colosse et l'église de Laodicée existe déjà. Je lis les passages. C'est Épaphras, notre cher ami et collaborateur, qui vous a instruit concernant la grâce de Dieu. Il est un fidèle serviteur du Christ auprès de vous. Je tiens à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères qui sont à Laodicée. On sait aussi qu'Archippe, fils de Philémon, exerce un ministère soit à Colosse, soit dans une ville proche, qui pourrait bien être Laodicée. En effet, on a trouvé un document appelé « Les Constitutions apostoliques » qui nomme Archippe évêque de Laodicée. Tout ça pour dire que Archippe ou Épaphras ont pu être à l'origine de l'église de Laodicée tout autant que les croyants d'Éphèse. Quand le Seigneur écrit à Laodicée, cette assemblée est spirituellement en chute libre. Tragiquement, l'incrédulité affligeante et on pourrait presque dire proverbiale d'Israël trouve un parallèle dans l'église de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens soi-disant chrétiens, ainsi que des églises entières, qui ont abandonné la foi. Ce n'est pas qu'ils manquent de sincérité ou de zèle, mais ils n'acceptent pas que le salut s'obtient simplement par la foi en la personne de Jésus-Christ. L'église de Laodicée est la dernière et la pire des sept églises auxquelles Jésus s'adresse. La spirale descendante, qui a commencé avec Éphèse, est passé par Pergame, Thyatire et Sardes. À Laodicée, elle touche le fond. La Odyssée représente les églises apostats qui ont existé tout au long de l'histoire. Non seulement c'est la seule sur les sept à ne recevoir aucun éloge du Seigneur, mais c'est aussi celle qu'il menace avec le plus de sévérité. Je continue à lire dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Au messager de l'église de la Odyssée écrit « Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. » Verset 14. Comme pour l'église de Philadelphie, Jésus ne s'identifie pas en se servant de la vision que l'apôtre Jean a reçue, mais se présente en utilisant trois titres divins. Premièrement, il dit qu'il s'appelle Amen. Ce nom pour Jésus-Christ n'est utilisé qu'ici. Amen est la translittération du mot hébreu qui veut dire vérité, affirmation, certitude. Le prophète Ésaïe appelle Dieu l'Amen, ce qui est traduit dans nos versions par Dieu de vérité. Il écrit « Et celui qui voudra être béni sur terre invoquera sur lui une bénédiction au nom du Dieu de vérité, et sur la terre on prêtera serment au nom du Dieu de vérité. » Dans les Écritures, le mot « Amen » est souvent utilisé pour affirmer la véracité d'une déclaration. Dans certaines versions du Nouveau Testament, « Amen » est traduit par « oui, vraiment » ou « en vérité ». C'est en Jésus-Christ que toutes les déclarations et les alliances de Dieu avec les hommes s'accomplissent et c'est lui qui les garantit. Toutes les bénédictions de Dieu à l'égard des hommes, son pardon, sa miséricorde, sa bonté, sa grâce et l'espérance de la vie éternelle des croyants, sont réunies en la personne du Christ dans sa vie, sa mort et sa résurrection. Il est l'Amen, car c'est lui qui confirme toutes les promesses de Dieu. L'apôtre Paul écrit « C'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi est-ce par lui que nous disons oui, Amen, pour que la gloire revienne à Dieu. » Fin de citation. En second lieu, dans sa façon de se présenter à l'église de la Odyssée, Jésus s'identifie comme le témoin digne de foi et véridique. Il est fiable et entièrement digne de confiance car tout ce qu'il dit est vrai. La fidélité de son témoignage assure aux croyants un message de vérité dans un monde tissé de mensonges. Finalement, Jésus se désigne comme celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Littéralement, le principe de la création de Dieu, c'est-à-dire celui qui en est la source, l'origine et l'intervenant. C'est par sa puissance que tout a été créé. À la fin du livre de l'Apocalypse, Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin ». C'est-à-dire tout. Il existe plusieurs points communs entre la lettre que Jésus adresse à l'église de Laodicée et l'épître que Paul adresse à l'église de Colosse. Étant donné que ces villes ne sont qu'à 16 km l'une de l'autre, il est quasi certain que la même hérésie a infiltré ces deux églises. Il s'agit d'une forme précoce de gnosticisme qui enseigne que Jésus est la première des émanations de Dieu et donc un être créé. Ses adeptes prétendent également posséder une connaissance spirituelle supérieure et secrète qui va au-delà des Écritures, un peu comme certaines sectes d'origine chrétienne aujourd'hui. C'est donc cette hérésie concernant la personne de Jésus qui est la cause du triste état spirituel dans lequel se trouve l'église de Laodicée. Pour la combattre, l'apôtre Paul rappelle aux Colossiens que Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu, est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Fin de citation. Jésus est le premier-né dans le sens qu'il est l'être suprême et prééminent, celui qui est le premier et qui précède tout autre être. Jésus est de toute éternité. Il est avant toute création et il en est le maître. Cette vérité devait également être communiquée à l'église de Laodicée. Pour cette raison, à la fin de l'épître aux Colossiens, l'apôtre Paul écrit « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit également lue dans l'église de Laodicée. » Je continue cette lettre à l'église de Laodicée. « Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant !» Verset 15. Le Seigneur n'a rien trouvé qui soit digne d'éloge dans cette église. Alors, après s'être présenté, il leur dit combien leur comportement est odieux à ses yeux. Les eaux chaudes de la ville de Hiérapolis étaient réputées pour leur effet thérapeutique et les eaux de Colosse étaient renommées pour leur pureté. Mais Laodicée recevait son eau au moyen d'un aqueduc et arrivée en ville, elle était tiède et croupie. Le Seigneur compare les chrétiens de cette église à de l'eau pratiquement imbuvable. Tout comme celle-ci est nauséeuse, le comportement des croyants de cette ville, ou de ceux qui se disent chrétiens, le dégoûte. Alors que l'eau chaude soigne et l'eau froide est source de vie, l'eau tiède ne sert à rien, surtout si en plus elle est putride. Comme le témoignage de l'église de Laodicée est inexistant, il va donc falloir que ses membres se remettent en question et s'alignent à nouveau sur le Christ qui, lui, est le témoin digne de foi et véridique.